Bon, alors on va tous faire la sieste en écoutant Simon. Il y a ceux qui parlent le matin qui sont sûrs d'avoir personne. Donc Christophe Pécaud le met toujours en premier. C'est pas que... voilà. Et puis il y a ceux qui parlent à 14h. C'est toujours un peu dur, mais...
Et c'est toujours des Normands, en fait, dans les deux cas.
Hein. Et c'est toujours des Normands, voilà. Donc, allez, Simon.
Donc, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon Leroulé. Je crois que ça le fait qu'il faut que tu éteignes le micro. Ça l'arsène un petit peu. Ouais. Et du coup, je suis sociologue. Ma thèse porte sur la domination du temps social dans les sociétés capitalistes, donc pas du tout sur le punk. Et si je me suis intéressé à ça, c'est parce que je suis acteur de cette scène depuis 12 ans maintenant. Et je travaille plus précisément sur ce que j'appelle la scène punk DIY rupturiste, c'est-à-dire non pas des gens qui vont être dans une pratique uniquement du DIY, mais des gens qui le portent comme un horizon, une organisation de la vie sociale qui pourrait être un au-delà du capitalisme ou autre chose que le capitalisme. Donc c'est dans une optique punk assez militante, autogestionnaire, très ancrée dans la tradition anarcho-punk. Le titre de cette communication sur la production de l'espace de la scène punk DIY, du rural à l'urbain entre autonomie et dépendance, porte deux références, parce qu'au-delà de la scène punk DIY, j'ai une autre passion qui est Henri Lefebvre, un sociologue et philosophe, qui a écrit un bouquin qui s'appelait « La production de l'espace » et qui a écrit un autre bouquin qui s'appelait « Du rural à l'urbain ». Et c'est un des penseurs fondamentaux, en géographie sociale notamment, de ces questions d'opposition que l'on peut faire entre les espaces ruraux et les espaces urbains, dans la ville comme quelque chose aussi qui a été essentiel au développement du capitalisme. Et ce qui m'intéressait pour cette conférence, c'est un peu de montrer comment la production de l'espace de la scène punk DIY est spécifique et produit autre chose justement que ce que produit le capitalisme en termes d'espace. Et je porte un t-shirt d'un groupe nantais qui s'appelle Chaviret, qui a utilisé la tête d'Henri Lefebvre comme motif, donc c'était une autre référence. Alors, cette communication au niveau de la méthodo, elle repose sur une collection d'entretiens que j'ai menée avec des acteurs et des actrices de la scène punk, DIY, qui ont agi et qui agissent toujours dans cette scène-là depuis début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure des récits historiques que peuvent faire ces personnes-là, différents types de lieux émergent. Les MJC, hein, pour les premiers, Christophe en a parlé de la MJC de Hérouville, par exemple. Mais lorsqu'on interroge des gens, par exemple, de Maloka, pareil, ils parlent de concerts qu'ils avaient organisés à Dijon dans les MJC, etc. Les squats, hein, les cafés musiques, les bars, les clubs, les lieux associatifs, et finalement les SMAC aussi. Alors, l'idée de cette communication, c'est de confronter les espaces pratiqués par les acteurs et les actrices de la scène punk DIY par rapport au processus de structuration des espaces culturels encadrés. Hein, donc je vais avoir quelques trucs de loi aussi, hein, des récits sur comment la production culturelle est devenue encadrée et a en fait permis de mettre de côté tout le caractère autogestionnaire de cette scène-là, et interroger aussi les dynamiques urbaines, hein, d'une manière plus générale. Considérer aussi les possibilités du dépassement du côté événementiel, c'est-à-dire de faire qu'un concert n'est pas qu'un concert, c'est une situation qui est créée pour aussi autre chose, une autre forme d'économie, une autre forme de socialisation, un autre rapport aux autres, etc., qui est quelque chose qui est assez important, et notamment prendre en compte la dimension temporelle du phénomène. Et avec cette question un peu qu'on a commencé à aborder aujourd'hui, est-ce que finalement, si la critique de l'urbain est très visible dans les textes des groupes punk, est-ce que ça veut dire qu'il y a une apologie du monde rural? Et en fait, vous allez voir que je suis pas tout à fait sûr de ça. Il n'y a pas d'opposition binaire, je pense, entre les espaces ruraux et les espaces urbains au sein de cette scène punk. Alors, interroger la production de l'espace punk, c'est aussi interroger la production de l'espace capitaliste. L'espace, pour Henri Lefebvre, est quelque chose de politique, c'est-à-dire, il le dit, hein, s'il y a des politiques de l'espace, c'est que l'espace est politique. C'est un enjeu stratégique dans les rapports de pouvoir, dans la structuration des rapports de force. Et l'espace dans le capitalisme est gouverné par la valeur d'échange. L'espace est mesuré en fonction de la plus-value que le capitalisme peut en retirer. L'urbain est la dimension spatiale de l'accomplissement du capitalisme pour Lefebvre. Et il montre par exemple qu'au XVIe et XVIIe siècle s'accomplit un bouleversement, celui de la primauté de la ville sur le rural, à la fois dans les représentations, mais aussi dans une analyse de la démographie. Le développement du capitalisme industriel va faire de la ville l'espace principal d'extraction de la plus-value sur la force de travail. C'est l'avènement des cités industrielles, etc. La ville, espace historique de l'échange commercial, devient à la fois le lieu de la formation, de la réalisation et de la répartition de cette plus-value. Et les réformes urbaines, Haussmann d'abord, puis Le Corbusier plus tard, ont fait des villes des espaces disciplinaires, assujettis au contrôle de l'État et aux intérêts du marché. et l'idéologie urbanistique qui repose sur le fonctionnalisme a encadré la constitution d'une quotidienneté qui se projette de manière fonctionnelle, c'est-à-dire que chaque espace a une fonction, est déterminé quelque part en amont. Alors, Lefebvre développe des choses sur l'emploi du temps, sur lesquelles je ne reviendrai pas là-dedans, mais d'un point de vue de ce qui nous interroge ici, c'est de savoir ce que ça implique en termes de résistance aussi, parce que le punk entre aussi en résistance par rapport à cette production de l'espace. Comment la réappropriation de l'espace ou la production d'un autre espace est finalement quelque chose qui va devenir une condition essentielle à ce que Lefebvre appelle le droit à la ville. Et si on regarde un petit peu comment s'est structuré la scène punk, on remarque que jusqu'à partir des années 90, les musiques amplifiées ne bénéficiaient d'aucun encadrement public en France. Les associations, les individus bénévoles organisaient pendant les années 70 des concerts pop et folk dans les MJC, qui deviendront le terrain de prédilection des groupes punk dans les années 80, parallèlement au squat, notamment grâce à l'ancrage militant des MJC traversé par une idéologie interne qui était celle de l'éducation populaire. Au début des années 80, le ministère de la Culture commence à prendre en compte les musiques actuelles suite à l'émergence de revendications dans les localités que le syndicat national des petites structures de spectacle, Synapse, qui se crée en 86, relaie à l'échelle nationale. Et c'est en 91 qu'il met en place le programme Café Musique, programme Café Musique qui va cristalliser les tensions politiques entre l'ouverture de la gauche social-démocrate aux musiques rock et rap, qui cherche à encadrer l'extension de la production culturelle underground, et une droite conservatrice qui va défendre la culture légitime d'alors et qui s'inquiète de voir ces musiques soutenues davantage que la grande musique dans les programmes culturels. Alors, par exemple, un extrait d'un rapport du Sénat. « Les projets formulés par les jeunes des quartiers feront l'objet d'une concertation approfondie entre l'État et les collectivités locales pour établir avec précision le coût de chaque opération. » Le mode de fonctionnement du lieu et le contenu de la programmation artistique, sans exclusive a priori quant aux domaines musicaux concernés. Donc ça date de 1991, je crois. Alors, en 96, le ministère abandonne le programme Café Musique aux initiatives qui étaient facilitées par des aides à l'emploi permettant de développer de nouveaux postes autour de la médiation sociale et culturelle. Les cafés musiques, à l'initiative de ces militants ou d'activistes de la musique, ont permis également, comme les radios indépendantes, à certains punks d'échapper à tout un tas de contraintes. J'ai pas mal de gens sur mon terrain qui ont par exemple été objecteurs de conscience dans ces cafés musiques ou dans les radios locales à l'époque. Ça va être une aubaine autant qu'une forme de contrainte qui naît. Les tendances autonomes et professionnalisantes dans la sphère musicale punk partageaient alors encore ces espaces, bien que les groupes punk DIY privilégiaient largement les squats quand il y en avait. Alors moi, je parle surtout de la province, hein, je connais très peu finalement ce qui s'est passé à Paris, il y a énormément de travaux là-dessus, mais il y en a tellement que c'est un peu compliqué. Et en effet, inscrit dans une longue tradition, les squats s'imposent un peu comme la projection spatiale de l'éthique punk DIY, notamment dans les années 80, qui voit naître dans ces espaces appropriés, notamment en région parisienne principalement, les groupes phares du mouvement punk alterno, dont quelques personnes ici pourront sûrement mieux en parler que moi. La création des SMAC suite à l'abandon des cafés musique va s'accompagner d'un appareil juridico-légal inscrivant ces scènes de musique actuelle dans des missions de formation, de professionnalisation, de travail social et de médiation culturelle au cœur des collectivités. Elsa Vivant rappelle dans un article « Le secteur culturel est désormais considéré comme un secteur productif, créateur d'emplois, de richesses, d'innovation et de développement local, qui passe par la formation d'un secteur professionnel de la culture et d'autre part par une politique de soutien à ses activités économiques. » Alors ces spécificités nouvelles assèchent cette porosité qu'il y avait entre les publics concernés par des espaces qui vont être moins accessibles à la scène punk DIY, parce que les nouveaux objectifs font que c'est plus difficile de pouvoir programmer son concert, etc. Bien que l'on ait tendance à penser séparément ces mondes-là, donc le monde plutôt illégaliste des squats et le monde des premières SMAC, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une volonté de l'action publique d'encadrer de plus en plus des choses qui lui échappaient. Bon, ça, c'est un truc historique, hein, on le sait, l'État a toujours fonctionné comme ça, dès qu'il y a un truc à la marge, il essaie un peu de le resserrer. Thomas Aguilera rappelle que l'action publique a une fonction de régulation du désordre et de maintien de l'ordre, et ainsi la création des SMAC vient non seulement répondre à une demande sociale issue des acteurs et des actrices des différentes sous-scènes rock, mais vient également encadrer et normaliser ce qui se niche dans le label « musique actuelle », où on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire, par un processus d'institutionnalisation des musiques amplifiées. Là où les trajectoires individuelles définissaient largement l'organisation et les orientations des cafés musiques, c'est-à-dire en fonction des endroits où on vivait, c'est que par exemple quelqu'un qui organisait des concerts dans une MJC, qui se retrouve à se charger de la programmation dans un café musique, si c'était quelqu'un qui venait du milieu punk, il allait programmer du punk, et si c'était quelqu'un qui venait du reggae, programmer du reggae. En fait, l'individu et sa trajectoire déterminé largement, visiblement, la programmation par rapport à ce qui se passait dans la ville, aux alentours, etc. Là, avec la professionnalisation, avec une évaluation aussi de la programmation, etc., il y a une obligation de toucher un petit peu tout ce qui existe. Cette institutionnalisation permet de créer des postes qui peuvent continuer à exister en dehors des trajectoires individuelles, avec toutes leurs caractéristiques, et va substituer à une organisation reposant sur les affects, sur les goûts de chacun, une rationalité séparant la création de sa gestion et éloignant le travail social initialement salué par toute l'éducation populaire liée au MJC. À la professionnalisation qui s'installe par l'arrivée des SMAC, les scènes qui communiquaient au sein des MJC vont se séparer un peu plus, ce qui va renforcer l'entre-soi notamment de la scène punk DIY, qui va s'identifier comme n'étant pas du monde des SMAC, etc. Donc, lorsque les squats continuent d'exister, ils continuent d'être les espaces privilégiés par les activistes, c'est ce que je vous disais, mais la mise en place des SMAC et la normalisation des conditions d'accueil, de diffusion, de licence, etc., vont rendre les MJC incapables d'être ces espèces d'espaces intermédiaires entre les SMAC et les squats, qui permettaient à d'autres publics de venir. Il y a toujours des fois, c'est compliqué pour les gens, et notamment en province, de rentrer dans un squat, parce qu'on a l'impression qu'on franchit la barrière de la légalité. Il y a quelque chose de l'ordre du symbole qui, des fois, en fait, gêne des personnes qui ne sont pas punk, qui ne sont pas ça, mais qui pourraient être intéressées de franchir ce cap-là. Et les MJC étaient des lieux intermédiaires, d'après ce que me racontent les gens. C'est-à-dire que c'est des endroits où les gens n'allaient pas forcément dans les concerts, dans les squats, mais ils les voyaient dans les MJC, donc c'est ça qui était intéressant. Ça élargissait, puis progressivement, ça permettait aussi à des personnes qui pouvaient être hostiles au squat, finalement, d'y venir progressivement, etc. Donc il y avait un lieu de socialisation particulier. Les activistes de la scène punk DIY vont donc voir leurs possibilités orientées par un certain nombre de déterminations structurelles liées à cet encadrement des musiques amplifiées, et qui vont ainsi redessiner la production de l'espace punk DIY. Et parmi les valeurs importantes portées par les enquêtés, il y a deux choses essentielles. L'autonomie, Michel en parlait hier, rester autonome par rapport à la programmation, par rapport à tout ça, pas dépendre justement d'une charte qu'on nous imposerait ou je ne sais quoi. Et le rapport aux marchands et non-marchands. Donc à partir de ces deux critères, des antagonismes qui vont structurer la production de l'espace DIY, autonomie contrainte, espace marchand, espace non-marchand, j'ai fait mon sale métier de sociologue comme la dernière fois, j'ai fait une typologie qualitative où j'ai essayé de schématiser un petit peu les différentes choses qui vont structurer ce rapport à l'espace. Alors vous voyez, il y a le pôle autonomie et le pôle contrainte qui sont opposés, de l'autre côté espace marchand, espace non marchand, et si vous regardez bien, l'idée c'est que les SMAC c'est à la fois une contrainte d'un point de vue de l'organisation pour les gens de cette scène-là, et en plus, ça a beau être un espace non marchand, le fait qu'il n'y ait pas de liberté dans la programmation, dans la gestion, dans l'accueil, etc., ça va faire que ça ne va pas forcément être un espace privilégié, là où paradoxalement, les cafés, les clubs, par exemple, sont des espaces marchands, mais où il y a une contrainte, ils ne vont pas être privilégiés non plus. Mais les bars, qui sont des espaces marchands, permettent une autonomie parce qu'on arrive, on réserve juste la salle du bar, on organise son concert, et puis on emmerde tout le monde, et c'est pas grave, quoi. Au pire, si le bar ne veut plus faire de concert la fois d'après, on n'en a rien à foutre. Et puis, les choses privilégiées, c'est en dehors des squats, tout ça, les locaux associatifs et les friches qui se développent notamment dans les années 90, un peu plus tard. Alors, bien que les acteurs restent attachés à la lutte contre la marchandisation, les options proposées par les espaces privés comme les bars peuvent être préférées parce qu'elles garantissent cette autonomie dans la programmation. Malgré le fait que ça puisse être des espaces moins adéquats à recevoir des concerts. Mais il y a aussi des choses très simples. Le fait que le patron de bar, s'il laisse utiliser la cave de son bar, les entrées elles sont pour les groupes. Il n'y a pas de captation de la thune en fait, par le gérant de la salle. Et ça, c'est assez important pour les acteurs. Et puis à partir de 1998, l'année de création des SMAC, la loi sur la diffusion de musique amplifiée va s'amplifier elle aussi. Et les lieux privés conventionnés sont soumis à l'obligation, s'ils sont à proximité des habitations, d'installer un limiteur, en plus de l'isolation phonique prévue par le Code de l'environnement, ainsi que des sorties de secours prévues par le Code de la santé publique. Donc en gros, la plupart des lieux qui pouvaient recevoir des concerts n'ont plus le droit de le faire légalement. Donc dans des villes comme Paris, où ça foisonne, où la densité urbaine est très forte, c'est vrai que ça se passe, il y a des gens, ils en ont rien à foutre, ils font des concerts dans leur bar, etc. En province, ça a limité énormément de possibilités d'endroits qui accueillaient des concerts, juste en se disant « c'est pas grave, on s'en fout ». Donc au-delà de la somme d'argent nécessaire que nécessitent ces mises aux normes, ça va obliger des commerces à augmenter leurs marges, et les activistes de la scène punk DIY peuvent difficilement rendre compatible leur musique avec le limiteur, parce que justement, nous on a essayé de faire des concerts dans un bar à Caen où il y a un limiteur, en fait on peut pas quoi, enfin... le copain avait ramené sa propre sono pour pas passer par la sono du bar, sauf que quand le patron il s'est rendu compte qu'on était passé par ça, on n'avait plus le droit de faire de concert, quoi. Mais le limiteur rend impossible, clairement, la musique un peu énervée dans des cafés-concerts. Alors, si tous les lieux qui reçoivent du public sont soumis à ces règles, le contrôle revenant à la police municipale, celui-ci s'effectue en général sur demande des riverains. Et ainsi, certains bars, bien qu'ils ne respectent pas les règles, y échappent par leur éloignement ou la présence de caves, venant confiner le bruit et maintenir une certaine discrétion. Certains individus ou collectifs, pour éviter de dépendre des espaces marchands, créent des espaces alternatifs éphémères, soit négociés avec les pouvoirs publics, soit loués. Alors, les espaces éphémères, effectivement, ça peut être des conventions. Hein. Hier, on en discutait. Le fait d'avoir une convention pour, je crois que c'est 12 à 18 mois, hein, du coup, ça permet de créer des espaces éphémères et après de lutter pour les garder au maximum. Ces locaux associatifs ou ces friches peuvent attirer les activistes de la scène en ce qu'ils permettent de concilier le principe d'autonomie à celui de la critique de la marchandise. Seulement, généralement, ils sont éloignés géographiquement et peuvent réduire l'attractivité des concerts. Estelle en parlait aujourd'hui, notamment de toutes les zones industrielles en périphérie des villes comme Le Havre, comme Rouen, mais aussi comme Caen. Malgré tout, le fait qu'une partie de la recette dégagée sur le bar puisse revenir aux organisateurs, en plus des entrées, engage davantage les enquêtés lorsque ce type de lieu existe. Au final, c'est toujours cette dialectique autonomie espace non marchand qui semble rendre compte de la tension interne de la production de l'espace punk DIY. Alors là, il y a une longue citation de Joanie que je vais pas lire, mais qui est assez intéressante sur ces espaces-là. Le squat fut longtemps privilégié, notamment par ses liens organiques qui unissent le mouvement punk et le mouvement autonome. Mais il y a des phénomènes de dépolitisation des années fin 90, début 2000, qui éloignent un peu ces deux mondes. Et bien que l'on observe, comme on l'a montré, une repolitisation de la scène punk DIY, il apparaît difficile aujourd'hui, en de nombreux endroits, de concilier ces cadres de référence, ces cadres théoriques, qui sont proches mais qui sont éloignés par un rapport au temps un peu différent dans les modes d'action, etc. Les squats étant avant tout des espaces de lutte, quand ils existent, ils s'instituent sur un ensemble de règles qui peuvent être contraignantes pour la programmation musicale, à part si c'est des squats effectivement essentiellement musicaux. Mais par exemple, pour un squat politique, si on doit organiser un concert, il faut passer par l'Assemblée Générale. Et il faut attendre la réponse de l'Assemblée Générale, que tout le monde soit d'accord, etc. Et quand un groupe t'appelle pour te dire « et on a besoin d'une date dans une semaine », en fait, c'est compliqué de pouvoir le faire dans ces endroits-là. Donc c'est d'autres contraintes qui se mettent en place. Même lorsque les activistes punk DIY souhaitent proposer des concerts de soutien en solidarité, comme ça a été le cas à Angers, les collectifs qui organisent la vie de ces espaces s'organisent sur des temps relativement longs de délibération et qui, des fois, sont antagoniques avec le pragmatisme punk, j'ai envie de dire. Hein, c'est le fait de se dire on part du faire avant de réfléchir aussi. On le fait avec un certain nombre de valeurs, mais on part d'abord du faire et après on réfléchit à tout ça. Alors, lorsque l'organisation des concerts reste entre les mains des activistes politiques, les enquêtés expriment alors le sentiment d'être considérés plus comme une ressource que comme des camarades. Et là, ça, c'est le cas, par exemple, de pas mal de copains punk bretons, où le mouvement autonome est très fort, où en fait, ils disent, c'est bien gentil, mais en fait, nous, on vient nous chercher quand il faut faire des concerts de soutien ou des trucs comme ça. Mais par contre, on nous considère un petit peu comme des alternos qui vivent à la marge et qui sont pas dans la lutte contre le capitalisme. Donc, une forme de rapport instrumental qui, des fois, dérange les enquêtés. D'un autre côté, les squats plus artistiques se distinguent des squats dits politiques par leur tentation à l'institutionnalisation, c'est-à-dire négociation avec les médias, avec les pouvoirs publics pour essayer de durer le plus longtemps possible, et peuvent constituer une cible critique commune à la fois pour les autonomes, à la fois pour certains punks, c'est-à-dire que pour les activistes politiques, la pérennisation de ces lieux-là tient à une stratégie qui permet d'expulser d'autres squats. C'était le cas, par exemple, les tanneries à Dijon ont été largement critiquées par le milieu autonome dijonnais parce qu'ils disaient « Ouais, d'accord, les tanneries, ça existe depuis 10 ans, mais en attendant, on n'arrive plus à ouvrir de squat parce que dès qu'il y a un squat qui ouvre, on nous dit « Les tanneries existent, vous dégagez. » Et donc, du coup, critique du milieu autonome. Ça a été le cas aussi à la Miroite, à un moment. Hein. Moi, je me rappelle avoir entendu ça, donc tu pourras nous en parler tout à l'heure, mais du coup, il y a des tensions aussi internes par ce statut ambivalent que peuvent être les squats qui accueillent de la musique, qui sont à la fois partagés entre un idéal autonome et en même temps quelque chose de l'ordre de la production, la contre-production, j'ai envie de dire, artistique. Le squat peut être aussi, c'est ce que dit Joanie dans une autre citation, pour les squatteurs politiques, c'est Elsa Vivant qui dit ça, pour les squatteurs politiques, anarchistes et autonomes, le squat représente une forme de vie alternative et dénonciatrice de certains travers de la société. Le squat est le lieu d'une marginalité revendiquée. La régularisation de l'occupation est en contradiction avec le projet politique et artistique revendiqué par les squatteurs. Et c'est vrai qu'à la base, si on demande autonomie, c'est compliqué d'aller négocier. Donc il y a toujours une critique qui est faite à cet égard-là. Autre critique commune aux deux types d'activistes, la façon dont l'ouverture de friches dans les anciennes cités industrielles ou la législation des appropriations illégales de ces espaces participe à un phénomène de désymbolisation permettant par l'accès aux à ces espaces aux classes créatives de réunir deux mondes. Nous, on a le cas à Caen, par exemple, dans l'ancien site de la SMN, où en fait, les pouvoirs publics, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des artistes marginaux dans l'ancien site. Qu'est-ce que ça crée ? Ben, c'est plus des espaces ouvriers, c'est des espaces d'artistes. Et en fait, il y a tout un processus de désymbolisation et resymbolisation qui permet en fait d'en faire des friches artistiques avec un public qui n'est plus du tout le public prolétaire du départ, en fait. Donc il y a des enjeux d'appropriation de l'espace aussi à ce niveau-là. Alors malgré toutes ces critiques, quelques espaces autogérés dans lesquels les activistes font partie à la fois des milieux anarchistes et autonomes et de la scène DIY réussissent à produire des temps communs. Et c'est vrai que par exemple, il y a le squat L'Étincelle à Angers ou les tanneries à Dijon qui ont été des lieux très importants. Ces acteurs clés permettent à la fois la réinjection du contenu politique dans la scène punk DIY et en même temps de sortir les milieux autonomes ou anarchistes de leur entre-soi. Lié au processus de distinction toujours de qui est le plus radical. Et néanmoins, certains de ces espaces autonomes permettent aussi une conciliation plus évidente, mais qui n'est pas sans dégager d'autres tensions d'ordre stratégique, comme par exemple les communautés rurales, pour le coup. Donc là, on revient plutôt sur la question du rural. En effet, entre un concert dans une communauté rurale autonome ou un narco-punk et un concert à Paris, il y a une différence majeure. La population diffère de manière quantitative et qualitative. D'une part, l'espace urbain, c'est un lieu de concentration du pouvoir politique, centralisation des institutions, de la répression, etc., mais aussi économique par les phénomènes de métropolisation. Et les possibilités d'occuper des espaces d'autonomie vont être soumises en ville à une plus forte répression pour ces raisons-là. D'autre part, le rythme urbain diffère et la mobilité spatiale devient une contrainte matérielle, notamment le temps de transport, la difficulté très pratique d'acheminer du matériel. Moi, j'ai vu quand, plusieurs fois où j'ai joué à la miroiterie, finalement, c'était le groupe de Caen qui ramenait le matos. Et les Parisiens, ils arrivaient avec leur diable, avec leur tête d'ampli, leur guitare, etc., parce qu'ils ne peuvent pas trimballer tout en métro. Du coup, c'est d'autres contraintes, d'autres rapports au temps et à la préparation d'un concert en province qu'à Paris. Mais c'est aussi une chose différente entre la campagne cannaise et Caen. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. Les observations révèlent une différence notoire entre ce qui se vit en province et à Paris, je disais, entre le rural et l'urbain. L'absence d'un temps autonome qui s'institue contre le temps hétéronome, freine les capacités d'expérimentation d'autres rapports sociaux. Finalement, on a juste le temps de faire le concert, on n'a pas le temps de faire autre chose, parce qu'il y a le dernier métro à prendre, parce qu'il y a la route à faire, etc. Alors que dans les espaces autonomes en campagne, les concerts sont souvent sur deux jours. Du coup, il y a le temps d'y rester, de se voir. Il y a des discussions, des fois, qui sont organisées, des ateliers sérigraphie, de la peinture, du théâtre, etc. Donc ça permet de dépasser le concert et le primat, finalement, juste de la musique. L'idée de ces lieux ruraux, ça permet aussi de créer une situation, une rupture avec le fonctionnalisme urbain, où le rôle du public, pour citer Guy Debord, sinon passif, du moins seulement figurant, doit y diminuer toujours. En fait, le public fait partie, vu qu'il a le temps de faire d'autres choses que juste de regarder des concerts, fait partie de tout le processus d'organisation, de tout le processus créatif. Au-delà de la différence qui s'observe par rapport aux rythmes urbains, c'est aussi que l'aspect répressif de l'économie ni la possibilité de s'approprier ce genre d'espace d'une manière plus collégiale, et que ces espaces sont soumis à une forte répression parce qu'ils sont une atteinte directe à un des principes fondamentaux du capitalisme et de l'économie, c'est-à-dire la propriété. Leur précarité empêche également, face aux perpétuelles menaces d'expulsion, la possibilité de renforcer cette collégialité, de renforcer aussi la qualité d'accueil, parce qu'on n'a pas le temps. Si on se fait virer d'un mois sur l'autre dans un squat, on ne va pas engager des travaux qui vont nous coûter une blinde. On en discutait aussi hier de ça. Nous, c'est le problème qu'on avait eu sur des squats à Caen, où finalement, on faisait aussi un petit peu toujours à vue, parce qu'on n'arrivait pas à faire à se dire qu'on avait le temps de se démerder pour faire des travaux et accueillir les gens d'une façon plus convenable. Cette précarité a des effets anthropologiques et limite toute projection dans le temps long. C'est une façon de faire disparaître l'utopie et la construction d'entreprises communes sur le long terme. Donc il y a donc deux tendances que je dégagerai dans cet activisme DIY rupturiste. L'une qui se limite un peu à l'existant et fait avec, elle use des lieux et des rythmes de l'économie. Alors pour cette tendance du DIY, la possibilité de contagion politique est plus importante. puisque les possibilités d'accessibilité y sont plus grandes. C'est-à-dire que plus de gens peuvent venir au concert. C'est par exemple les copains, pour prendre des exemples parisiens, parce qu'il y avait essentiellement des parisiens, qui organisent des concerts à la mécanique ondulatoire, qui est un lieu clairement en fait, qui est pas un lieu DIY, c'est un lieu où les gens ils font du business, quoi. Mais l'avantage, c'est qu'il y a plus de monde au concert. Et quand il y a un infokiosque, ça ouvre davantage, etc. Et en même temps, l'autre tendance, c'est finalement d'essayer de dépasser cette dépendance à des lieux, mais où du coup c'est moins facile pour les gens d'y aller parce que c'est plus confidentiel. C'est un concert à la rouille dans le 44 qui est une communauté anarcho-punk, c'est un concert en Bretagne dans une ferme autogérée, c'est ce genre de trucs là. Il faut le savoir pour y aller. Donc c'est deux tendances un peu intéressantes qui peuvent être aussi prises comme des stratégies différentes et qui peuvent s'articuler. Et c'est ça en fait la chose dont on a parlé ce matin, c'est que finalement il ne faut pas considérer ça comme des sphères séparées, mais plutôt comme des polarités sur lesquelles les acteurs et les actrices font des allers-retours. Notamment parce que les groupes qui jouent dans les deux types d'espaces, donc se rencontrent aussi, etc. Mais parce que les personnes qui vivent dans ces communautés vont en ville voir des concerts, et ceux qui sont en ville vont voir des concerts dans ces communautés. Et finalement, on se rend compte que il y a eu, notamment à partir des années 2000, et c'est lié avec ce qui se passe dans le mouvement autonome, un retour effectivement à la terre, à la campagne, etc., mais sans un espèce de mythe de la belle campagne ou je sais pas quoi. C'était aussi quelque chose de l'ordre de comment produire une base arrière dans laquelle on peut se retrouver et faire les choses différemment dans ville, sans dire que c'est de la merde en ville. Et c'est la chose en fait que je voulais évoquer, c'est qu'à mon avis, il faudrait peut-être pas opposer justement par rapport à mon terrain, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, ville et campagne, c'est plutôt des choses qui s'articulent avec une population qui voyage énormément, qui se déplace énormément sur l'espace national ou sur l'espace régional, et qui, en plus, porte une critique de la ville, mais qui n'est pas une apologie du rural. Et donc, je voulais mettre, pour illustrer ça, un extrait d'un texte et d'une chanson d'un groupe de Nantes, La Chavirée, justement, où on se rend compte, vous verrez, qu'il y a une critique de la ville. Nous ne voulons pas nous satisfaire de cette absence de tout, de ces lieux funestes et sans goût, de ce constat amer. Qu'est-ce qui reste de la ville quand on y a retiré la vie, quand il n'y reste que le bruit, quand il n'y reste que le vide? On peut se souvenir de plein de groupes de punk, en fait, qui utilisent justement cette critique de l'urbain, de la grisaille, du béton, etc. Pour autant, c'est des populations urbaines. Et en fait, le truc, c'est que cette critique de la ville, elle n'est pas à prendre, à mon avis, comme une apologie de la campagne qui serait belle, qui serait meilleure, mais plutôt comme un enjeu d'une lutte encore en cours, qui est celle, effectivement, de se réapproprier l'espace urbain. Donc je finis là-dessus, je vous laisse la musique. Voilà. Merci.
Merci Simon.